Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Dans les années 60, c'était les oiseaux. Les années 70, les dents de la mer. Les années 80, Alien. Les années 90, c'est arachnophobie.
RTL.
Ah, arachnophobie, le suspense, dernier cri.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On a la lumière allumée, mais moi j'ai un peu peur là.
Ben oui, arachnophobie, c'est un film et c'est tout ce que le cinéma essaye de nous susciter comme trouille, comme peur, comme panique, comme phobie à cause des araignées. Et pourtant, nous, on a décidé que c'était nos nouvelles copines. Elles ne doivent pas vous faire peur. Notre invitée va nous expliquer pourquoi. Christine Rollard, vous êtes arachnologue, vous travaillez notamment pour le Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, elles ont très mauvaise réputation, c'est vrai.
Oui.
On va avoir le temps de dire pourquoi ils ne faut pas maintenir cette mauvaise réputation, mais quand même j'ai un peu compris pourquoi en lisant le chapitre de votre livre qui est consacré à la reproduction qui n'est pas de tout repos pour les mâles quand même. Comment ça se passe?
Les mâles ont à peu près la taille d'une proie potentielle pour les femelles, puisque les araignées peuvent se manger entre elles, et là il faut qu'ils développent un certain nombre de stratégies d'approche pour éviter effectivement de se faire manger.
Parce qu'ils sont
mais
tout petits, les mâles?
Ils sont pas tout petits, mais ils sont souvent un peu plus petits que les femelles, et donc éventuellement ils peuvent être pris comme nourriture.
Donc s'ils veulent éviter de se faire manger une pâte ou manger tout cru, c'est quoi leur stratégie?
On a par exemple de la musique, on a des offrandes de cadeaux, on a des danses,
mais comment ça,
des tiraillements de fil, voilà. Ils peuvent faire des vibrations, des stridulations. Ils peuvent également taper, faire du tambour, du tambourinage sur les fleurs, sur les feuilles, sur le sol. Et tout ça, c'est perçu par les femelles, et ça diminue l'agressivité en fait des femelles. Ou alors ils tiraillent sur des petits fils de soie des toiles, et pour faire comprendre en fait que c'est un partenaire potentiel et non pas une proie.
Et parfois ils arrivent même avec une proie, un cadeau, comme ça la femelle peut manger, et
exactement,
ils peuvent se carapater, c'est ça?
C'est
vraiment
ça, oui. Le mâle attend en fait que la femelle effectivement se nourrisse, commence à liquéfier un peu sa proie, et puis il fait son affaire, et ensuite il peut s'en aller.
Et elles sont comment les femelles araignées? Elles sont fidèles ou elles sont volages?
Eh bien, en fait, il y a, on va dire, et de la polygamie et de la polyandrie, en fait, chez les araignées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des femelles qui peuvent avoir un accouplement avec plusieurs mâles, et on trouve aussi le phénomène inverse.
C'est-à-dire en même temps, non, avec différents mâles?
Après l'autre.
J'ai eu peur, je me suis dit, quoi ces araignées?
notre morale en aurait souffert. C'est quoi une araignée? Est-ce que c'est un insecte? Tiens.
Ah non, effectivement, c'est souvent pris pour des insectes. Mmh. Et il y a quand même quelques petits caractères qui sont visibles. Si on compte le nombre de pattes, par exemple, il y en a 6 chez les insectes et 4 et 4, donc de chaque côté, chez les araignées. Donc ça fait 8.
D'accord.
Après, les insectes ont des antennes. Les araignées n'en ont pas.
Ouais,
elles ont une petite paire de pattes à l'avant, mais qui ne sont pas des antennes.
Mmh.
Et puis, les insectes ont 3 parties dans le corps. Les araignées n'en ont que 2. D'accord. Donc la partie avant, tête et thorax est réunie.
Et il y a qui d'autre dans la famille des... D'ailleurs, c'est quoi la famille des araignées? Ça s'appelle les...
Alors, on parle en fait d'un ordre des araignées, c'est les aranéides. Et puis en fait, ça fait partie d'un grand groupe, un grand chapeau qu'on appelle les arachnides. Alors dans les arachnides, on a les scorpions par exemple aussi.
D'accord.
On a les acariens.
Il y a combien de variétés d'araignées?
On parle plutôt d'espèces. Il y a, à l'heure actuelle, déterminée, il y a à peu près 45 000 espèces dans le monde. Donc ça fait à peu près en France 1700, ce qui est quand même pas mal.
Elles vivent plutôt de manière solitaire ou en société, les araignées?
Beaucoup plus solitaire quand même. On a sur les 45 000 espèces, on a une vingtaine d'espèces qui sont dites vivant en communauté, ou en société, mais pas comme les sociétés de fourmis ou de termites. C'est pas du tout le même niveau.
Elles vivent leur vie, quoi, elles se baladent.
Et voilà, elles sont solitaires, elles vivent leur vie, mais de temps en temps, il y a quand même en fait des rapprochements. Donc les mâles peuvent quand même rester de temps en temps avec les femelles quelques jours aussi.
Ah, ils sont pas obligés de partir très vite à chaque fois.
Il y a la cohabitation quand même.
Ah bien, nous voilà
rassurés. Quelques jours, c'est pas non plus.
C'est pas un mariage très longue durée.
Si dans la vie d'une araignée, c'est peut-être long.
Ça vit combien de temps,
effectivement,
une araignée,
la majorité des araignées qu'on peut rencontrer en fait en France, en Europe ou même dans le monde, c'est 1 an, 2 ans.
Ah, c'est beaucoup, quelques jours alors.
C'est quand même énorme. Après, les maximums de durée de vie qu'on a pu constater, c'est une vingtaine d'années.
C'est quoi la plus grande araignée?
Ça fait partie des grosses mygales qu'on voit souvent dans les films, là. Mmh. Et c'est des grosses mygales qu'on peut trouver, par exemple, en Amérique du Sud.
Hein, vous y êtes allé, faire, vous
oui,
regardez
tout à fait.
Près, c'est vrai?
Oui, c'est impressionnant quand même, effectivement. Mais bon, c'est pas dangereux pour l'homme, de toute façon. Mais c'est impressionnant quand même. On voit une énorme araignée qui peut faire autour de 13 cm de taille de corps, sans les pattes. Donc avec les pattes, ça fait quoi 25 cm d'envergure,
ma main,
grosso modo,
quoi.
Ouais, la taille d'une grande assiette.
Taille... Hein, ah oui, voilà. Quand même, ouais. Hein, donc beaucoup plus grande que ma main, moi j'ai des petites mains.
Un petit peu quand même, ouais.
Ouais. Ouais. Ça,
et
c'est très
ça,
impressionnant,
ça fait quand même impressionnant. Voilà.
Vous dites que c'est pas dangereux pour l'homme, ça veut dire qu'elles ne piquent pas, ces araignées-là?
Elles piquent ou elles mordent de leur proie, mais vous n'êtes pas une proie pour l'araignée, donc si elle ne se sent pas attaquée, elle ne fera rien, elle passera à côté.
Alors, nous, on sait comment échapper à nos prédateurs, mais enfin, en tout cas aux araignées, parce qu'apparemment, celles-ci ne sont pas dangereuses. Mais les araignées, elles font comment pour échapper à leurs prédateurs?
Oh ben, les premières techniques, c'est celles qu'on a aussi, hein, en tant qu'animal, pareil, hein, c'est la fuite. Hein,
d'accord.
Voilà. La deuxième technique, c'est... elles font les mortes.
Hein, ouais.
Elles font pas toutes des toiles, déjà.
Ah.
Elles font les mortes. Hein, elles se recroquevillent, elles peuvent rester comme ça, immobiles pendant un certain temps.
Les pattes,
complètement
pattes resserrées.
Ouais, resserrées, quoi, hein, vraiment. Et puis, on peut toucher, elles ne bougent pas, quoi. Et puis...
ça ressemble presque plus à... Pardon, je vous interromps. Ouais. Ça ressemble presque plus à une araignée. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre ça pour, je sais pas, une...
Ah ben bah on voit quand même le corps, hein,
ah oui,
certaines, quand même, hein, d'une certaine taille.
Ne rêvez pas, Thomas.
Quand même.
Non, c'est pas ma phobie, moi, c'est plutôt les oiseaux, donc ça va avec les araignées.
Oui,
mais on n'est pas là pour raconter ma vie, hein, donc c'est
voilà.
Pas grave.
Ça peut être handicapant.
Ça peut
mais
être gênant, c'est
voilà.
Vrai.
Et puis après, effectivement, elles peuvent aussi, quelquefois, faire des positions d'intimidation. C'est-à-dire qu'elles lèvent les premières paires de pattes et elles font une position un petit peu d'agression, hein, mais sans attaquer. Pour faire comprendre que effectivement, bah attention, je peux être dangereuse, etc. Et la quatrième position, c'est éventuellement je mords parce que je peux rien faire d'autre.
Et vous voyagez pour aller observer les araignées dans leur environnement naturel?
Ça m'arrive en tant que chercheur sur les araignées d'aller effectivement soit en France métropolitaine, soit en France outre-mer, soit dans d'autres pays pour aller faire des inventaires et aller les chercher et les nommer parce qu'on y a beaucoup qui sont encore complètement inconnus à l'heure actuelle.
Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Bonjour, je m'appelle Christine Rollard et vous êtes ici au sein du Muséum National d'Histoire Naturelle. En fait, c'est le jardin des plantes aussi. Hein.
RTL.
Je vais vous faire découvrir un groupe d'animaux méconnus et souvent mal aimés.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Merci de nous faire la visite, Christine Rollard. Nous sommes derrière vous à la découverte. Ah bah oui, je parle sur les... Non, c'était pas fini. Pardon, André Facetta, je suis vraiment désolée. Je parle un peu comme si j'étais chez moi.
Mais vous êtes chez vous.
Ah mais vous avez raison, on est tous chez nous.
On est à la maison, là.
On découvre et on parle des araignées avec vous. D'ailleurs, vous publiez un livre passionnant, La découverte des araignées, aux éditions d'Uno. Et à la lecture de ce livre, je découvre que ces charmantes petites bêtes, qui nous font quand même globalement assez peur, sont sur Terre depuis plus longtemps que nous. Depuis combien de temps finalement?
Les premières traces fossiles qu'on a pu rattacher aux araignées, alors c'était des morceaux, datent de 390 millions d'années. Donc largement avant les dinosaures hein, quand même.
Alors ces fossiles, ils ressemblent à quoi? Ils sont effrayants, effroyables, énormes?
Non, là c'était des morceaux. Et le premier fossile vraiment entier, qui ressemble à une araignée un peu plus par rapport à celle qu'on a actuellement, date de 200 et quelques millions d'années quand même. Hein. Donc c'était une petite araignée qui faisait 6 mm. Hein.
Oui, parce
taille
que nous,
de corps.
Ah oui, donc c'est tout petit. On imagine que les araignées préhistoriques étaient énormes.
Et ben
pas
non,
forcément.
Mais ça, c'est dans les films. Hein, donc c'est dans l'imaginaire, effectivement. Mais dans la réalité, le plus gros fossile ne fait même pas la taille de l'araignée la plus grosse actuelle.
Est-ce qu'elles ont évolué, ces araignées? Ou est-ce qu'on a aujourd'hui des espèces qui, finalement, étaient les mêmes il y a... 200 millions d'années.
En fait, effectivement, les premières ressemblaient, hein, on pouvait les attribuer aux araignées, mais maintenant, la diversité qu'on observe à l'heure actuelle était la même qu'il y a à peu près 120 millions d'années. Donc, effectivement, elles ont évolué, mais depuis 120 millions d'années, on retrouve effectivement la même diversité que celle qu'on observe à l'heure actuelle.
Alors, nous, on a très peur des araignées, mais est-ce qu'il y a des pays où l'araignée est vénérée, aimée?
Bien sûr, oui, c'est vraiment quelque chose qui est assez culturel, hein, cette peur des araignées ou cette phobie. Dans certains pays, en Asie, en Afrique, elle est respectée, Elle est vénérée, on connaît peut-être mieux la nature aussi. Et puis on lui prête un certain nombre de symboliques, de sagesse.
Par exemple.
Donc elle est aussi un être qui est apparu et qui a pu faire sortir en fait les hommes des ténèbres et faire la liaison entre les astres et puis la terre, par exemple.
Par exemple, chez les aborigènes en Australie, c'est
oui,
quoi ?
Oui, bien sûr. En fait, les aborigènes en Australie, c'est vraiment l'homme araignée, qui va donner des conseils, qui va être peut-être un peu autoritaire aussi, qui va être quelquefois facétieux, mais qui va effectivement apporter en fait des éléments aux hommes, quoi. Et donc après, il y a effectivement aussi des sortes de cérémonies divinatoires en Afrique avec les araignées. Donc quand elles sortent, elles vont se déplacer ou déplacer des objets, et on va pouvoir interpréter tout ça. Et dans plusieurs cultures, David, Mahomet, etc., ont été sauvés par des araignées. Donc on va respecter justement les araignées qui ont permis en fait de sauver les prophètes.
Qu'est-ce qui fait que ça a basculé chez nous, dans nos civilisations occidentales ?
On l'explique mal, néanmoins, en fait, il y a quand même aussi des écrits anciens qui sont quand même plus négatifs que ça. Mmh. On a un certain nombre de contes aussi ou de légendes qui sont assez négatives. Et puis après, il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues qui ont été colportées. Et les films en rajoutent pas mal aussi. Et les médias aussi, quelquefois. Donc, quand on a une méconnaissance, on a effectivement, quelquefois, des buzz qui partent sur quelque chose qui n'est pas du tout réel.
Dans nos appartements de citadins, on peut croiser la tégénaire, c'est ça ?
Oui, oui, oui. C'est la plus grosse et celle qu'on voit en général et qui a très mauvaise presse, qui est très mauvaise ambassadrice du monde des araignées.
Pourquoi ?
Effectivement. Bah parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est quelques espèces sur les 45 000, donc ce n'est pas du tout la représentation. Mmh. Effectivement, elles sont assez grosses, alors que la majorité, c'est autour de 5 mm de taille de corps. Donc, les tégénaires, elles
sont
sombres.
Elles sont dangereuses.
Elles sont la nuit, elles courent vite et elles ne sont pas dangereuses. Comme la majorité des araignées, elles ne sont pas dangereuses pour nous. Mais pour les proies, oui, mais pas pour nous.
Mais il y a des phobiques, Maxence, tiens, qui nous appelle du Nord et qui nous dit « je suis phobique des araignées ». J'ai entendu dire que les araignées aimaient les endroits propres. Et alors là, il rigole, il dit « la solution est-elle de ne plus faire le ménage pour ne plus les croiser ?»
Il cherche une excuse.
Il cherche une excuse parce qu'en fait, dans les maisons, il vaut mieux les laisser justement et ne pas les écraser parce qu'elles ont un rôle d'insecticide naturel, de prédateur. Et donc du coup, elle va effectivement nous débarrasser d'un certain nombre de petites bêtes aussi qu'on a dans nos maisons de toute façon, qui sont quelquefois un peu microscopiques, qu'on ne voit pas, mais dont elles se nourrissent.
Oui, mais on va nettoyer les toiles quand même d'araignées. On va
oui, pas... les fils qui prennent la poussière. Ça veut dire que souvent, quand les fils sont pleins de poussière, l'araignée n'est plus là. Donc on peut les enlever, les fils. Mmh. Et après, elle peut reconstruire éventuellement des pièges de bonne qualité pour reprendre les proies.
Alors,
mais
on a
une maison saine, c'est une maison avec des araignées. L'araignée a asséné la maison. Attention. Elle
d'accord.
va pas dans une maison parce qu'elle est propre, sinon elle n'a rien à manger. Elle a assaini elle-même la maison.
Ben ah voilà. Oui, parce que c'est elle qui dévore les insectes.
Merci à Maxence pour cette question.
Alors Christine Rollard, on a bien compris, les araignées en majorité sont très sympathiques.
Bien sûr.
Mais il y a quand même une araignée qui nous fait peur, c'est la mygale. Est-ce qu'il y en a en France ?
Alors la mygale, on va dire les mygales, il y a 2700 espèces.
Ah oui,
que de mygales ?
Que de mygales,
ah oui,
sur les 45 000 espèces au monde. Et on a quand même effectivement aussi des mygales européennes et non pas que tropicales. Elles ne sont pas toutes grosses, la plus petite fait 1 mm. Et ça, on n'en parle jamais de celles-ci.
Bah
elles ne sont pas impressionnantes du tout.
On l'oublie tout de suite.
Les grosses, en fait, c'est autour de 600 espèces, on va dire. Et celles qu'on a en France font autour d'un centimètre, 2 cm grand maximum au niveau de la taille du corps.
Et leur toile, elle ressemble à quoi ? Elle est discrète ?
Alors, ce sont des toiles tubulaires, ce sont des tubes dans le sol. Donc, toutes les araignées ne font pas de toiles de toute façon. Et les toiles, ce sont de différents types. Mais là, ça fait des tubes, en fait, des terriers creusés, tapissés de soie. Et qu'elle prolonge quelquefois à l'extérieur, ça fait quelquefois des petites chaussettes de soie. Donc on en a une qu'on a dans le jardin des plantes.
Tiens,
à Paris, qu'on appelle
mygale
la mygale chaussette.
C'est drôle. Alors on l'a fait la mygale, la tarentule, celle-là aussi a la mauvaise réputation.
Ah, alors la tarentule, c'est la première fois qu'elle a été décrite, c'était de la ville de Tarente, où elle avait été trouvée dans la région des Pouilles, en Italie.
En Italie, d'accord.
Et d'où le nom, en fait, qui a été donné de Lycosa tarantula, la tarentule. Et puis après, effectivement, il y a quelquefois des confusions, parce que ça c'est une araignée qui court au sol, en fait, on les appelle les araignées loups. Et il y a confusion avec les tarentules. Donc c'est pas la, mais les tarentules, qui, chez les anglo-saxons, correspondent aux grosses espèces de mygales. tropicales. Donc on parle de tarantulas, des tarantules, d'accord, et là qui correspondent vraiment aux mygales. Mais nous, notre petite tarantule, bon, elle fait quand même une taille de 2,5 cm de taille de corps. Elle est assez grosse, un peu comme les tégénaires.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Bonjour, je m'appelle Christine Rollard et moi j'étudie plus particulièrement les araignées.
RTL.
L'araignée. Ce qui est important quand même pour les araignées, c'est les préserver. Surtout, soyez curieux.
L'araignée. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Christine Rollard nous a confié hors antenne qu'on l'appelait la femme araignée dans le milieu.
C'est vrai? Mmh. Et vous connaissez l'homme araignée?
Oui, oui, oui.
Il est sympa.
Même
sans son collant?
Oui, il est pas mal. Il est pas mal. Il a des sacrées capacités quand même aussi.
Ah oui, il est impressionnant. Vous êtes arachnologue, vous êtes enseignante, chercheuse, vous travaillez au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous faites des visites, on entendait votre voix. Vous guidez les visiteurs, c'est ça?
Ah, ça m'arrive en fait de faire des petites animations au moment des fêtes de la nature, etc. Et puis de faire voir les araignées dans le jardin des plantes, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'y en a pas beaucoup.
Et vous arrivez
Il y en a.
Vous arrivez à les faire aimer, les araignées?
Oui, je pense. Ouais, j'essaye, en tout cas. Pour les arachnophobes, c'est quelquefois difficile, mais au moins avoir un autre regard.
Et la veuve noire méditerranéenne, dont on entend parfois parler,
c'est une
fille pas sympa.
Bah déjà, la veuve noire, oui, en général, c'est très négatif.
Elle a mangé son mari.
Il y a plusieurs espèces, en fait, dans le monde, et elles ont la mauvaise réputation de manger leur mari. Mais ce n'est pas toujours systématique, hein, quand même.
Hein. Bon, alors,
il peut échapper, hein, aussi. Mais c'est vrai que les araignées, de toute façon, les femelles, en général, vivent plus longtemps que les mâles. Les mâles, après l'accouplement, meurent, de toute façon, mangés ou pas, par la femelle.
Mais elle ressemble à quoi?
Et bah, c'est une petite boule noirâtre qui n'est pas très très grosse. Hein. Elle fait la taille de l'ongle du pouce maximum. Et puis elle a souvent aussi du rouge, hein, une sorte de sablier rouge. Donc rouge-noir, ça fait souvent attention danger. Et effectivement, elle a un venin assez puissant qui peut tuer des proies d'assez grande taille. Elle peut capturer des proies beaucoup plus grosses qu'elle. Et il se trouve que dans son venin...
Jusqu'à un tomahugue.
des petits scorpions, des lézards, alors que elle fait une taille d'à peu près 1 cm grand maximum.
Alors toutes les araignées ne tissent pas des toiles, c'est ce que vous nous avez dit, Christine Rollard, mais quand même la veuve noire, elle en fait une?
Alors elle fait une toile, mais c'est des toiles en réseau, c'est pas les toiles géométriques qu'on a l'habitude d'associer en fait aux araignées en général, avec les belles épaires hein, qu'on a souvent à l'automne sur les belles toiles très régulières.
Mais c'est donc quoi, là c'est une toile des
réseaux.
Réseau,
bah, c'est des réseaux de fils, c'est des fils enchevêtrés les uns aux autres, mais qui font quand même un nappage sous lesquels se tient l'araignée. Donc c'est quand même Son mode de chasse, c'est son piège qui va permettre aussi de capturer les proies.
Donc c'est moins bien organisé qu'une toile.
Mais c'est pas organisé comme une toile géométrique.
Voilà. D'accord.
Après, les tégénaires dont on parlait tout à l'heure font des toiles en nappe. C'est vrai, quand on les voit derrière les meubles ou dans les garages,
c'est vrai que c'est bien
vraiment
fait,
un nappage avec quelquefois un entonnoir au bout. Donc c'est une autre forme en fait de toile.
Mais il y en a encore beaucoup comme ça, des formes de toiles
Nappe, géométrique, tube, réseau.
Mais comment ça s'explique?
Il y a plusieurs types.
C'est par goût ou c'est
la mode? Cette année c'est la mode du tube.
Je me fais une petite toile en réseau là cette année.
Non, c'est défini génétiquement. En fait, telle famille va construire tel type de toile et d'autres familles vont ne pas avoir de piège du tout et vont capturer leur proie différemment.
Quand on voit une toile, mais qui peut faire, je sais pas, un mètre entre deux arbres, comment elles ont le premier fil et comment elles font?
Et oui, pour les toiles géométriques, en fait, souvent le premier fil, elles vont l'émettre par, donc les fils sortent par des tubes qu'elles ont au derrière. Contrairement à Spider-Man, c'est pas par les mains, c'est par des tubes au derrière.
Ouais.
Et ces fils vont être lancés par la femelle ou enfin l'araignée, et se laisser dévider par le moindre souffle d'air. Et donc ce fil va ensuite aller, il a comme des petits points d'ancrage, s'accrocher en fait à un autre support. Elle est sur l'arbre.
Elle reste sur l'arbre.
Et le fil va s'accrocher à un autre arbre qui peut être à une distance quelquefois très importante.
Ah bah c'est comme Spider-Man.
Exactement.
Sauf que c'est pas par les...
Sauf voilà, ouais, hein, c'est pas par les mains. Et ce fil étant accroché, elle le
bien.
Sent.
Les scénaristes ont hésité
à faire
Spider-Man par le derrière. Ils se sont dit non, ça va moins bien marcher.
Je dis souvent ça aux enfants justement et ça les fait bien rigoler.
Donc alors premier fil, ça fait un pont,
elle le sent en fait, donc elle s'accroche où elle était, et puis elle peut se déplacer sur ce fil en dévidant d'autres fils pour consolider, et ensuite elle va à partir du milieu grosso modo redescendre en fait toujours avec ses fils au derrière pour aller accrocher à un autre support, et elle va faire cette manœuvre plusieurs fois en fonction en fait des supports qu'elle va trouver autour, et ensuite une fois qu'elle aura fait son cadre, elle va faire les rayons et ensuite la spirale qu'on voit au centre.
Mmh. Donc elle termine
du centre
par le centre
jusqu'à l'extérieur, ouais. Et ensuite elle revient de l'extérieur vers le centre en posant à ce moment-là les fils collants. Puisque dans une toile, il y a trois types de fils différents et il n'y a que la spirale qui a des petites gouttelettes de glu.
Mais ça se fait sur plusieurs jours, ça, une toile ?
Non. En une heure de temps, ça peut être fait. Et certaines, d'ailleurs, les refont chaque jour. Quand elles sont trop abîmées par les proies, elles peuvent même faire du rafistolage. Et certaines espèces vont remanger leur toile tous les jours, puisqu'elles ont une période de chasse avec leur piège. Et puis, après, elles se reposent. Allongées dans
l'air. Christine Rollard, dites-nous, est-ce que allongé dans l'herbe, on fait une petite sieste, on est bien, on est au soleil, et puis hop, une petite araignée en profite pour entrer dans notre bouche ?
C'est possible.
Normalement, non. Elles n'ont rien à faire en fait, dans notre bouche, et puis elles ne sont pas attirées de toute façon. Et même quand on dort, elles ne sont pas attirées par les ronflements ou les souffles. Donc, ça fait partie effectivement des idées reçues. Par contre, on peut en manger, mais juste à bouche ouverte quand on marche, et puis qu'il y a une petite araignée qui s'envole au bout de son fil, comme un petit moucheron ou autre.
Mais c'est pas si grave.
Pas plus que ça. Voilà.
Autre idée reçue, étrouille d'arachnophobe, j'ai une plaie ouverte, est-ce qu'une araignée peut pondre des œufs dedans ?
Non, pas du tout. Elle n'envisage pas du tout de pondre ses œufs dans des plaies. Et puis ensuite, il faut vraiment qu'elle les entoure après de beaucoup de soie, hein, et qu'elle les protège, ou elle les protège bien elle-même, ou elle les met dans un endroit et dans un milieu qui leur permette de se développer, mais pas dans la peau.
Dernière petite question, pourquoi on trouve souvent des araignées dans nos baignoires ?
Ce sont en général, à la période de l'automne, les mâles d'étégénaires qui recherchent les femelles d'étégénaires et qui errent dans nos maisons à la recherche et en sentant les odeurs et à la recherche d'une partenaire. Et ils ne sont pas sortis des tuyaux, mais ils sont bien tombés dedans et ils ne peuvent pas ressortir sur les parois lisses.
Il faut les remettre
donc
sur le droit chemin.
Il faut les ressortir.
Pour qu'ils puissent trouver leur femelle.
J'ai moins peur maintenant.
Ah oui, on va les aider. Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous. Merci.
Christine Rollard, votre livre écrit avec Alain Canard, à la découverte des araignées, est publié chez Dunod. C'est la fin de cette curiosité. On vous donne rendez-vous demain à 20h, évidemment.
On va aller dans les coulisses du Crazy Horse. Nous allons faire des expériences de magie. Et aussi, nous nous enverrons en l'air avec des auteuses de l'heure.
C'est une bonne idée, ça. Je pense que je vais venir. C'est un programme
oui,
qui donne envie.
Bien, votre propre émission, c'est
allez,
bien.
Bonne soirée à tous dans un instant. Évidemment, c'est RTL. Grand soir. À demain. Bonne soirée.
Vous écoutez RTL.